travail au Cachin oriental. J'ai réduit totalement ce qui
se passe.
Parole aux auditeurs, une émission de Radio Capi qui vous permet de prendre la parole et de donner votre point de vue sur les préoccupations quotidiennes et les grands faits marquant l'actualité en RDC. Pour débuter la semaine, votre émission 100% interactive traite d'un sujet économique. Le mercredi dernier, le ministre des Finances a signé avec les régies financières des pactes de doublement des recettes. Ainsi, les régies financières telles que la DGRAD, la DGI et l'OFIDA ont pris l'engagement de produire le double des assignations qui leur sont assignées, bien sûr, pour l'exercice budgétaire 2010. Pour ce faire, le ministre Matata Mponyo compte sur la réforme du système financier congolais, l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude et le détournement. Probablement ce sujet vous intéresse, vous auditeurs qui êtes contribuables. La question pour lancer l'émission, quelles sont les retombées du paiement des taxes, redevances et impôts sur le vécu des populations congolaises? Pour en parler, nous avons invité M. Laos Bijoum Kebi. Il est député national économiste et membre de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Pierre Lamézi, Titim Poutou, sous la supervision de Nicole Daka, sont à la réalisation de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bonjour Monsieur Laos Bijoum Kebi.
Bonjour madame, c'est Monsieur Laos
Bijoum Kebi. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes économiste, membre de la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. Une petite introduction, bien sûr, pour nos auditeurs. Une question assez simple. À quoi servent les taxes, redevances et impôts?
Écoutez, merci la madame de m'avoir invité chez vous. Les taxes, redevances et impôts pour une république ou pour une nation tout court servent à ce que le pouvoir organisateur, sinon le gouvernement, puisse arranger un certain nombre de problèmes, répondre à un certain nombre de préoccupations de la population, notamment l'entretien ou la réhabilitation des routes, la réhabilitation des, pas seulement la réhabilitation, la construction même des hôpitaux, des écoles, mais aussi le paiement des fonctionnaires, des militaires, des policiers, tous les agents de l'État, y compris le fonctionnement de la République.
Donc ça permet en fait à l'État de pouvoir fonctionner tous les jours, avoir des fonds pour pouvoir, comme vous l'avez dit, payer les militaires et ainsi de suite, même les fonctionnaires de l'État.
Effectivement, sans les taxes, sans les impôts, sans les redevances, l'État ne sait pas fonctionner. L'État est paralysé. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsque le budget n'est pas encore voté, promulgué par le chef de l'État, le gouvernement manque de ressources pour faire fonctionner l'appareil de l'État.
Et qui sont les contribuables?
Écoutez, les contribuables, c'est vous, c'est moi, donc les personnes physiques, les personnes morales, comme les entreprises, tant publiques que privées, ce sont là les contribuables.
Donc d'une manière ou d'une autre, même si on ne paye pas, par exemple, une taxe, on ne paye pas un impôt, même quand on paye sa facture, peut-être de régie des eaux, quand on veut voyager, donc il y a toujours des taxes qui sont retenues, qui sont perçues et qui vont dans la caisse de l'État.
Exact. Comme vous le dites, même quand vous consommez une tasse de thé, de café, même quand vous consommez une bouteille de bière ou une bouteille de limonade, là-dedans se trouve la taxe. Donc, vous avez déjà contribué pour le fonctionnement de la République.
Donc, d'une manière directe ou indirecte, tous les habitants de la RDC, toutes les populations contribuent à la caisse de l'État.
Exact.
Nous allons prendre une série d'auditeurs qui vont s'exprimer sur ce sujet, bien sûr, savoir quelles sont les conséquences, bien sûr, en payant nos taxes, redevances et impôts à l'État.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Kikwit, c'est dans le Bandundu. Arsène, dites-nous un peu, selon vous, lorsque vous payez votre taxe, redevance, impôt, quel est l'impact en fait, les conséquences de cet impôt dans votre milieu?
Ok, merci madame. Merci vraiment que vous m'avez passé la parole pour ce sujet. En tout cas, ça fait mal. Ça fait très mal. Nous autres qui avons encore le temps d'aller dans les bureaux de l'État pour payer nos taxes et voir que, en réalité, on dirait qu'on est en train de fournir de l'argent à toute une équipe de personnes qui ne savent pas faire avec cet argent. Maintenant, on est en train de chercher à doubler. Mais ce qu'ils ont déjà eu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Nous, ici, par exemple, à Kikwit, on a une législature qui parle maintenant après des 4 ans. Nous n'avons rien reçu, rien s'il vous plaît.
Et on n'a rien attendu
dans le cas.
Arsène, il faut qu'on soit un peu pragmatique et qu'on aille directement au but. Vous vous attendiez à quoi?
Pardon?
Vous vous attendiez à quoi, en fait, quand vous dites qu'il y a 4 ans, vous n'avez rien vu, mais quelle était votre vision en payant vos taxes? Vous vous attendiez à quoi?
Alors, ma vision est très simple, très très simple. Mais on doit voir l'État quand il perçoit de l'argent. Quel est le service que l'État doit rendre aux contribuables? Quels sont les services? On doit aménager les hôpitaux, on doit aménager les infrastructures. Il y a des travaux, ne jusqu'à un petit pas. Mais aujourd'hui, nous devons redoubler. Nous allons redoubler pour quoi faire avec? Parce que ce qu'on avait, on n'a rien fait avec. C'est partout. Moi, quand je suis en train de... Mes collègues ou mes compatriotes partout qui sont en train de pleurer. Mais aujourd'hui, nous avons atteint près de 14 milliards. Le Premier ministre Gizeng avait dit pour redresser l'économie nationale, d'ici les 4 ans, je prépare un 14 milliards de dollars et nous allons redresser l'économie nationale. Où nous en sommes? Où nous en sommes? Aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que ceux qui gèrent, ils croient peut-être gérer je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais nous autres qui continuons...
Et quelles sont les propositions, Arsène?
Pardon?
Quelles sont les propositions?
Les propositions. On commence d'abord à nous faire voir pratiquement des effets pratiques sur le terrain de ce qu'ils ont déjà vu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors là, nous serons encouragés. Même la personne qui ne sait pas payer son taxe suite au village, quand il voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, qu'il y a quelque chose qui se passe dans son entourage, il ne va pas hésiter de payer de l'argent. Bon, je vais donner un exemple, madame. Le jour que le Premier ministre Gizenga, au moment des élections, il a dit qu'il n'avait pas de l'argent, mais tellement qu'il avait la foi, qu'on avait la foi en lui, vous avez dit que c'est ce qui s'est passé. La population a contribué, ils ont donné de l'argent, et il a payé son 50 000 dollars. Aujourd'hui, c'est la même histoire avec notre nation. Et aujourd'hui, on peut faire confiance à mon gouvernement. Question de demander aux Congolais de donner de l'argent. Nous avons 100 milliards de dollars de budget.
Voilà. Merci beaucoup, Arsène, pour votre intervention à partir de Kikwit. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, Mme Chantal.
Oui, et de Bounia, on vous écoute.
Oui, merci. Comme vous l'avez dit, c'est Serge Kamar, donc de Bounia, de la Faculté des sciences économiques et de gestion. En soi, c'est une excellente chanson de Bounia. Mm-hmm. Je pense que, comme le sujet, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact, donc de redevance, des taxes, comme on est en train de les prélever. Et, madame, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, je pense qu'il faut arriver à recadrer ce système qui puisse arriver à appliquer un taux tout à fait raisonnable, d'autant plus que tous ces prélèvements qui sont en train d'être opérés sur les contribuables ne contribuent guère pas, donc en fait, à une contrepartie que les contribuables sont en train d'attendre. Et si aujourd'hui, nous sommes entrés, donc en fait, de déclarer cette situation, c'est aussi face à une mauvaise gouvernance ou en fait aussi de la chaîne publique qui fait à ce que nous tous aujourd'hui nous ne contribuons pas en fait d'une contribution assez efficace de ce prélèvement.
Merci beaucoup Serge, vous pensez qu'il faudrait recadrer le système et c'est aussi une question de mauvaise gouvernance et pourquoi on n'arrive pas à voir notamment, je vois à Bounia, l'impact des taxes, redevances et impôts. Bonjour Fiston.
Ah oui, bonjour maman.
Vous êtes en ligne à partir de Walikale, c'est dans le sud de Kivu, on vous écoute.
Bon, non, Fiston, sont là les Nord-Kivu.
Non, les Nord-Kivu, merci.
En fait, par rapport aux problématiques liées aux taxes faites par notre gouvernement, nous voyons sur le terrain l'impact c'est flou, car les infrastructures proposées à le faire par le gouvernement, je vous dis, est considéré sans succès. Mm-hmm. Parce que vous allez voir dans le territoire de Walikale un territoire qui donne et qui regorge assez de n'est-ce pas de l'argent, mais vous allez voir c'est bizarre, la route, les infrastructures, les hôpitaux, je ne sais pas quoi, et nous voyons c'est aberrant dans notre communauté locale. Mm-hmm. Donc c'est la population qui contribue, mais la population ne voit rien. Et par rapport à ça, donc on est en train de déplorer cette situation.
Mm-hmm. En fait, et vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité?
Bon, écoutez, maman, nous voulons assez que si nous contribuons quelque chose, il fallait que nous voyions, n'est-ce pas, d'impact sur le terrain, nous voyons les signes de ce qu'on est en train de faire, des signes, des contributions qu'on est en train de faire sur le terrain. Mais le gouvernement, avec ça, ça nous étonne, et qu'il fallait que le gouvernement améliore sa façon de gérer, sa façon, n'est-ce pas, de faire quelque chose. Et si vous promettez à la population qui vous écoutez, on va faire ceci, on va faire ceci, mais après, il n'y a pas de choses qui est concrètes par rapport à ça, donc on continue toujours à déplorer. Donc, nous souhaiterions à ce que le gouvernement change sa manière de gouverner le pays, sa manière de gérer le pays, sa manière... n'est-ce pas, de taxer aux gens pendant qu'il n'y a pas d'impact sur le terrain.
Merci beaucoup.
Le gouvernement congolais.
Merci Fiston pour votre intervention. Séraphin est au bout de la ligne. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour madame.
Séraphin, on vous écoute. Quelle est votre impression en rapport aux taxes, redevances et impôts que la population paye?
Bon, en fait, je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous m'offrez. Mais je voulais peut-être faire un petit ajout à ce qu'avait dit votre invité, que le député national, parce qu'il n'a pas su quand même distinguer l'impôt et les taxes.
Nous allons y arriver, c'est prévu en fait. Mais
oui,
n'empêche que vous
soutenez
déjà les
impôts. Il n'y a pas de contrepartie.
Mm-hmm.
Ben, la taxe, c'est une obligation à des personnes assujetties, mais il y a aussi des contreparties. Mais ce qui m'a éclairé à ses propos, lorsqu'il avait dit que, lorsque vous lui avez demandé la question de savoir qui sont assujettis à ce genre des obligations, il a dit que la personne morale et la personne physique, bien sûr, la personne morale et la personne physique sont assujetties à cette obligation. Mais ce que moi je lui demande, lui en tant que député, est-ce qu'il contribue vraiment, est-ce qu'il paye l'impôt sur le revenu professionnel? Je ne pense pas. Alors que ce sont des personnes qui sont bien rémunérées dans ce pays, ils touchent au moins 4 200 $, si j'ai une fraîche mémoire. Si vous calculez seulement les taux de prélèvement sur son salaire, je crois que c'est 30% pour les nationaux, l'hyper-national, c'est 30% pour les nationaux. Donc, si vous faites un petit calcul, ça doit être une affaire au moins de 1 260 $ pour un député.
Mmh.
Alors, si vous faites maintenant la sommation de tous les députés, les 500 députés, c'est une somme là astronomique, madame.
Oui, mais on voudrait savoir.
Mais en achetant maintenant dans le vif. Oui, madame.
Oui, c'est ça notre problème. Quelles sont les retombées chez vous lorsque vous payez vos taxes, redevances et impôts?
Bon, en fait, c'est pourquoi je vous avais dit que l'impôt, pour le moment, l'impôt n'a pas d'impact. L'impôt, ce n'est pas. C'est une obligation, bien sûr, mais qui n'a pas de contrepartie. Mais la taxe que les gens payent vraiment, je ne pense pas qu'il y a vraiment des retombées positives. Donc, seulement, on vit là, on paye l'impôt qu'on appelle, non pas l'impôt, mais la taxe de route là, de route.
Mmh.
Actuellement, les péages, actuellement, la route sont aménagées. Je ne pense pas. Et si réellement les ministres ont fait des assignations, il faudrait faire qu'on puisse doubler les recettes. Mais je me demande qu'est-ce qu'il avait pris comme mesure d'accompagnement. Est-ce qu'il va maintenant augmenter l'enveloppe salariale de ces agents de la DGI, qui sont au moins 3 mois ou 2 mois parfois impayés? Et c'est ce qui entraîne à ce que ces agents soient tentés dans la corruption. Mais je ne dis pas peut-être qu'ils sont tentés dans la corruption, parce que personnellement, j'ai passé mon stage à la DGI, où j'ai été encadré par un chef qui m'avait beaucoup épaté, un chef du bureau contrôle fiscal, Foulibert Ngoufou. c'est un chef là qui m'a effacé. Lorsque j'ai demandé à ce gens, ils m'ont dit que celui travaille comme un blanc. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas la corruption. C'est quelqu'un qui travaille avec sincérité.
Oui.
Il faudrait assez que l'enveloppe salariale soit aussi améliorée quand même, madame.
Oui.
De prendre la précaution de doubler les recettes.
Oui, nous vous invitons de rester quand même à l'écoute de Radio Capi parce que nous allons développer tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup pour votre intervention, Séraphin. À partir d'Ouvira, nous prenons le dernier auditeur de cette série. Il s'agit de Carline de Colesi. Carline, je pense, bonjour. Bonjour, Carline. Carline.
Oui, c'est Carline Tamboué.
Oui.
C'est la place de Colesi.
Oui, Carline, on vous écoute. Carlin,
oui, je t'écoute. Oui, je suis là.
Essayez un peu d'éteindre votre poste récepteur et suivez l'émission par votre portable. Cela permettra qu'on puisse avoir un échange assez direct parce que si vous suivez l'émission par le poste récepteur, vous aurez un retour, vous aurez un retard et ce sera difficile pour nous de pouvoir échanger. Carlin, on vous écoute.
Voilà, j'aimerais aborder dans les mêmes sens que mon prédécesseur. Je suis vraiment d'accord avec lui. Moi, personnellement, je suis choqué. J'ai vu dans une ville comme Colesi où d'où proviennent l'essentiel des richesses nationales de ces pays. Mais moi, je me demande si au niveau de la rétrocession, ça ne marche pas, au niveau du gouvernement central ou provincial. Parce que c'est une ville où même les routes pour les entretenir, c'est tout un problème. Il n'y a plus de routes, il n'y a aucune infrastructure à marche. Alors, je suis en train de me demander, et toutes les recettes fiscales et les redevances minières, à quoi ça sert véritablement à notre pays. Et une autre préoccupation, on a demandé à ceux qui les régies financières doublent les recettes de l'État. Oui, c'est logique. J'aimerais savoir un peu. Moi, c'est une question que je me pose. Ils vont procéder par une augmentation verticale. Ça veut dire, les taux d'imposition qui existent déjà, on va les doubler. Ou soit, par une augmentation horizontale. Ça veut dire, ils vont encore créer d'autres taxes. Ou simplement, je me demande par quel miracle ils vont y parvenir. Ou soit, que tout ce qui était intercepté, qui n'allait pas dans les caisses de l'État, qui seront récupérés. Là, c'est parmi mes inquiétudes. Je me demande comment l'État parvient à redistribuer sa recette. Parce qu'on n'est même pas en mesure d'entretenir une route dans une grande ville. Où viennent les richesses nationales? Voilà, ça c'est ma préoccupation que j'ai. Alors je me demande, vraiment il y a urgence, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il y ait de la bonne gouvernance dans notre pays.
Merci beaucoup, Carlin de Colesi.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Ladjof Bidjo, vous avez suivi nos auditeurs. C'est vrai que le ministre, plusieurs fois, le nouveau ministre des Finances, il a plusieurs fois eu des entretiens avec des opérateurs économiques, avec d'autres personnes qui sont actives en fait dans l'économie du pays, même avec les responsables de la DGRA, de DGI et de l'OFIDA. En fait, il a martelé sur des questions, notamment pour pouvoir doubler en fait ses recettes. Il a dit qu'il va essayer de revoir, qu'on puisse reformer le système financier qu'on est, qu'on puisse élargir l'assiette fiscale, donc peut-être aller de l'informel au formel, mais aussi lutter contre la fraude et le détournement. Est-ce que vous pensez, avec le paysage, le climat politique qu'il y a pour l'instant en RDC, est-ce que c'est faisable?
Madame, permettez-moi d'abord de recadrer les choses.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que tout le monde doit savoir que les impôts et taxes sont créés par la loi.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que si la loi n'autorise pas tel impôt ou telle taxe, ça devient un impôt illégal, ça devient une taxe illégale ou une redevance illégale. Mm-hmm. Ça, c'est très important pour que ceux qui nous suivent puissent le savoir, et c'est là, il y a une nomenclature qui détermine les taxes qui reviennent au gouvernement central et celles qui reviennent aux provinces. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'on puisse augmenter les recettes fiscales et fiscales? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pourquoi je l'ai dit? Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est l'autorité budgétaire. Depuis que nous sommes là, depuis bientôt 4 ans, le gouvernement, lorsqu'il présente le projet du budget à l'Assemblée nationale, vous avez eu à vous rendre compte que l'Assemblée nationale, avec une semaine ou deux semaines de travail de la Commission économique et financière, nous avons toujours eu à dénicher certaines recettes que nous considérons, en ce qui nous concerne, comme éludées par le gouvernement ou par les services qui mobilisent les recettes. Ce sont des recettes qu'on appelle souvent des recettes additionnelles.
Mm-hmm.
Donc, vous vous êtes rendu compte qu'en 2007, par exemple, nous avons trouvé des recettes additionnelles de l'ordre de 800 millions. En 2008, c'était autour de 350 millions de dollars. En 2009, autour de 500 millions de dollars. Et en 2010, c'est autour de 1 milliard de dollars. Mm-hmm. Ça pour dire que c'est possible qu'on puisse augmenter les recettes de l'État. Et comme vous le savez d'ailleurs, les recettes telles que nous les présentons au niveau, telles que nous les votons au niveau du budget, ce ne sont que des minima. Donc, il n'est pas dit que lorsque l'autorité budgétaire a demandé à ce que la DGRAD puisse mobiliser, je donne un titre à titre exemplatif, 250 milliards de francs congolais, cela ne veut pas dire que il doit s'arrêter à 250 milliards de francs congolais. Il peut aller jusqu'à 400 milliards. Mm-hmm. C'est long, selon le travail que cette régie peut fournir sur terre.
Parce qu'apparemment, la crainte de la plupart de nos auditeurs pour cette première série, c'est de voir, par exemple, les taxes doublées, donc que ce soit à la charge du contribuable.
Au fait, l'augmentation des recettes ne veut pas dire qu'il faut augmenter les taxes. L'augmentation des recettes dépend beaucoup plus de l'élargissement des assujettis à ces différentes taxes-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait hier que 200 personnes, à titre exemplatif, madame, s'il n'y avait hier que 200 personnes qui étaient vérifiées, qui apportaient, qui payaient leurs taxes, c'est peut-être par le fait que le personnel, les agents de la DGRAD, je parle de la DGRAD parce que je parlais de la DGI, hein, c'est peut-être que les agents de la DGRAD n'avaient pas suffisamment des moyens qui leur permettaient de se déployer sur le terrain. Mais qu'en se déployant sur le terrain et avec une motivation, ils peuvent donc augmenter le nombre de personnes qui doivent contribuer, qui doivent payer ce qu'ils doivent apporter au niveau de la caisse du trésor public.
Oui, vous avez dit que pour mobiliser les recettes, ça passe d'abord par une loi, pour d'abord que ce soit légal. Mais nous avons constaté, par exemple, au niveau de province, il y a plusieurs lois, il y a des directions provinciales de mobilisation des recettes dans toutes les provinces. Et à part cela, il y a aussi au niveau national. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, le contribuable peut se sentir asphyxié?
Mais vous avez raison, à premier refus, hein, que lorsque il y a beaucoup d'impôts, d'ailleurs le principe est clair en matière de finances publiques, trop d'impôts tue l'impôt lui-même. C'est-à-dire que quand il y a trop d'impôts, quand il y a trop de taxes, on étouffe même le génie créateur du citoyen, et dans les cas qui nous concernent, le génie créateur du Congolais. Mais est-ce que maintenant il y a trop d'impôts parce qu'il y a au niveau de province, au niveau du gouvernement central, eh bien, la constitution, parce que c'est là la loi des lois, la loi fondamentale, la constitution détermine les impôts qui doivent être recouvrés par le gouvernement central, et même les taxes qui doivent être recouvrées par le gouvernement central. Mais toujours au niveau de la constitution, il y a également une détermination claire des taxes, des impôts qui doivent être recouvrés au niveau des gouvernements provinciaux. Mm-hmm. Peut-être que hier, les choses ne se faisaient pas de façon un peu plus claire, mais qu'aujourd'hui, avec cette responsabilisation, les provinces commencent elles aussi à chercher à vivre, à développer leur province, leur entité. Mais maintenant, c'est aussi peut-être le taux. Ça, c'est un problème aussi.
Mm-hmm.
Le taux qui est fixé. Par exemple, pour un menuisier, ce qu'on lui demande, est-ce que cela vaut par rapport aux bénéfices que le menuisier réalise dans son atelier? Ça, c'est
un autre débat. Avant qu'on ne puisse prendre une deuxième série d'auditeurs, une dernière question. Est-ce que c'est possible qu'on puisse doubler les recettes sans que le contribuable ne puisse aussi être asphyxié?
Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. On ne doit pas doubler les taxes pour le plaisir de doubler les taxes. Mais par contre, on peut doubler les recettes. C'est ça la différence. Doubler les recettes, je venais de terminer, de dire quels sont les mécanismes qui peuvent permettre à la DGI ou à la DGRAD et même à l'OFIDA de doubler les recettes. Il se prévoit de faire du travail sérieux. Mais comme certains de vos auditeurs l'ont dit tout à l'heure ici, hein, la DGRAD, l'OFIDA ou même la DGI, parfois ils ne reçoivent pas ce qui leur est dit.
Oui, mais ce n'est pas une raison.
C'est une des raisons. Pourquoi on parle de 5%, par exemple, qui doit être rétrocédé aux régies financières? C'est pour motiver davantage le personnel qui va chercher de l'argent.
D'ailleurs, au cours de cette émission, nous aurons un agent de la DGI, le directeur intérimaire de la DGI qui sera en ligne. Il pourra donner plus de précisions par rapport à ce sujet-là.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Ilunga.
Bonjour.
Ilunga, vous nous appelez à partir de Colosi, on vous écoute.
D'accord madame. Moi d'abord je voulais commencer par exprimer ma peur. J'ai une peur dans la mesure où je me demande dans quelle mesure notre gouvernement envisage de faire quoi, de doubler ses recettes. Puisque si l'honorable estime qu'il y a des mécanismes qui peuvent mettre en œuvre pour doubler, je ne sais pas, des recettes. Alors, faut-il que ces gens-là attendent que le gouvernement leur demande de dédoubler les recettes pour le faire? Ça, c'est une première peur que je voulais d'abord exprimer. Et pour moi, j'estime que tout ce que nous donnons comme taxe, à quoi ça sert finalement? Moi, je vous appelle d'écologie et je parle comme mon prédécesseur. Nous ne voyons rien que le gouvernement est en train de faire pour nous. Les routes abîmées, bientôt sera de tout sèche chez nous. C'est-à-dire que nous allons mourir de poussière, mais finalement, vous voulez qu'on augmente encore les taxes pour nous augmenter la poussière ou quoi? Nous sommes déçus.
Merci beaucoup, Ilunga, pour votre intervention à partir de Colosi dans le Katanga. Nous prenons directement M. Vincent Kabwa. Il est le directeur général intérimaire de la DGI, la Direction générale des impôts. Bonjour, M. Kabwa.
Bonjour, madame.
Vous avez peut-être suivi votre prédécesseur, un auditeur. Il s'inquiète et nous étions en train d'échanger avec notre invité sur le plateau. C'est le député national Ladjos Bijo qui dit. Et en fait, la question qui revient souvent parmi les auditeurs, c'est de savoir est-ce que c'est possible qu'on puisse doubler les recettes sans pour autant que le contribuable puisse voir ses taxes doublées ou son impôt.
Madame, comme directeur général ad interim, j'ai dit oui, c'est possible de doubler les recettes sans que le taux de l'impôt soit corrigé. Mmh. Et je crois dans les dispositions du pacte, cela n'est pas prévu une augmentation des taux. Je voudrais concrètement vous exposer de quoi il s'agit concrètement dans le pacte. Je prends un cas. Madame, vous savez tous que quand vous lisez les dispositions de l'article 47 en ce qui concerne la rémunération des agents publics, je voudrais dire des fonctionnaires, l'article 47 est clair en matière d'impôt cédulaire sur les revenus. Il dit que les rémunérations frappent également les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des institutions publiques et aux agents des carrières des services publics. Ça signifie en réalité les rémunérations versées aux fonctionnaires doivent être imposées à l'impôt professionnel sur les rémunérations. D'autant plus que quand vous lisez les exemptions qui sont prévues par la loi, il n'est pas prévu d'exempter les rémunérations du fonctionnaire à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Or, madame, vous savez que notre budget paye au titre des rémunérations, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est autour de 40-45%. Mm-hmm. De rémunération, le budget supporte 40-45%. Mm-hmm. Et voilà, ce sont ces revenus-là que nous voulons prendre l'impôt là-bas.
Mais déjà,
et dans le pacte que nous avions signé, le gouvernement s'engage pour que cela soit effectif. Parce qu'en fait, qui paye ces rémunérations? C'est le gouvernement qui passe par le ministère du budget. C'est ainsi que par le mécanisme du pacte, nous voulons que le ministère du budget soit les redevables. C'est-à-dire le ministère du budget ait cette charge de collecter cet impôt.
Oui, mais vous pensez, M. Kabwa, déjà avec des rémunérations assez faibles, par exemple un fonctionnaire de l'État, un enseignant, est-ce que vous pensez que ce sera possible?
Madame, vous savez, il y a un impôt au titre, en matière de rémunération, il y a toujours un impôt forfaitaire. Vous savez, les contribuables, les employés des contribuables qui relèvent de la deuxième catégorie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par deuxième catégorie, si vous voulez?
En fait, je ne voulais pas aller trop en détail. Je voulais simplement dire ceci. Il n'y a aucun revenu qui échappe à l'impôt pour reprocher les rémunérations. En matière d'exemption, il n'y a pas de revenu qui ne soit pas imposé en matière d'exemption. Ça signifie tout salaire doit être imposé en matière d'impôt professionnel sur les rémunérations. Oui. Quand vous allez au niveau de l'article 95, qui traite du barème, les taux minimum, c'est déjà 3%. Et par rapport à ce taux minimum sur le revenu, il n'y a pas des taux, il n'y a pas des taux zéro. Mm-hmm. Et il y a aussi un impôt minimum. C'est-à-dire, si on applique les taux de 3%, qui est le taux qui frappe la première tranche de revenu, si on calcule l'impôt, cet impôt ne peut pas être en deçà de 0,5 francs fiscaux par mois.
Bon, mais
monsieur, madame, je voudrais simplement dire que la rémunération est facile de l'impôt professionnel sur la rémunération.
Oui, et il y a aussi un autre problème. On parle de l'élargissement de l'assiette fiscale. Comment ça peut se faire que de passer de l'informel au formel?
En fait, il y a plusieurs stratégies pour passer du secteur formel au secteur informel, du secteur informel au secteur informel. D'abord, il y a, vous saviez, toute transaction laisse des traces quelque part. Elle laisse des traces quelque part, et à condition que ces traces n'aient pas été fautées. Vous savez, si nous ciblons déjà toutes les transactions qui passent par la direction des douanes, la direction générale des douanes et accises, toutes ces transactions, si nous les saisissons. Nous saisissons également tous les contribuables. En fait, c'est toutes les transactions qui passent par grandes sociétés. Vous savez, si nous saisissons pratiquement toutes les transactions qui transitent par le cordon douanier, nous saisissons également toutes les transactions qui se passent auprès des grands opérateurs économiques.
Mm-hmm.
Je crois même les petits n'échapperaient pas.
Oui.
Et il y a plusieurs par rapport au recrutement, ça c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais aussi dire, dans certaines sociétés, il y a ce qu'on appelle des centres de gestion agréés. En fait, il n'y a pas d'opération qui ne transite pas par un centre de gestion agréé.
Oui, une dernière question.
La société économique a un petit conseil.
Oui.
Et ce conseil est réglementé par, et je crois que cette démarche, c'est la démarche à laquelle les CCC.
Oui, apparemment, Monsieur Cavoy, on arrive quand même à mobiliser les recettes en RDC parce qu'en fin de compte, on constate que le contribuable, malgré qu'il ne voie pas les retombées en fait de sa taxe ou bien de son impôt ou redevance, d'ailleurs même ici à Kinshasa, on a vu qu'il y a des bouclages, il y a aussi la vignette, donc il y a beaucoup de choses que le contribuable est en train de faire, mais la grande question, c'est de savoir, comme l'a dit le ministre, la lutte contre la fraude, le détournement, au niveau de la DGI, vous êtes souvent accusé, taxé de détournement. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir régulariser cela?
Merci madame, la question est vraiment pertinente. Et d'ailleurs, nous venons d'ouvrir ce matin une formation de mise à niveau à l'attention des vérificateurs polyvalents. Nous avions aussi attiré leur attention par rapport à ça. Mais au plan interne, il y a des stratégies qui sont arrêtées au plan interne. Généralement, au niveau du contrôle fiscal, par exemple. Au niveau du contrôle fiscal, nous avions pris déjà plusieurs dispositions, notamment l'utilisation des guides que nous avions conçus, des guides de contrôle sur pièce et des guides de contrôle sur place. Et ce qui est gros aussi, nous avons mis en service une banque de données des recrutements. Parce que si en réalité, tous ces éléments, les guides, ainsi que toutes les données qui proviennent des recrutements, vont alimenter l'étude sur pièce du dossier. C'est-à-dire avant qu'il y ait une intervention sur place, pour un contrôle sur place, il faut d'abord une étude sur pièce. Pourquoi nous avons voulu enrichir l'étude sur pièce? C'est pour permettre la traçabilité du contrôle qui est fait, c'est-à-dire la traçabilité des opérations sujettes au contrôle.
Vous pouvez conclure en dernier mot, parce que c'est là le grand problème, hein, la corruption, la lutte contre la fraude, parce que les gens payent quand même.
Okay, c'est ce que je disais, au plan interne, et même aujourd'hui, la formation qui est en train de se passer à Fatima, c'est en rapport avec ça aussi. Nous avons prévu un cours de déontologie professionnel. Et nous avions aligné un de nos éminents juristes
pour faire passer ce message à notre personnel.
Merci beaucoup, Monsieur Vincent Kabwa, pour votre intervention à cette émission. Bonjour, Ngondele.
Bonjour Radio Okapi, bonjour l'invité, bonjour tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, à partir d'ici, est-ce que vous avez vu un impact des taxes, redevances et impôts que vous payez?
Bon, à partir d'ici, ce sera un peu difficile, d'autant plus que je ne sais pas le chiffre en tête. Mais toujours est-il qu'à mon niveau, j'ai trois niveaux auprès desquels je voudrais bien intervenir. Il y a d'abord, au premier niveau, je dirais qu'il est possible que les recettes puissent doubler. Sans pour autant changer la tête fiscale ou sans pour autant mettre en exergue la tracasserie auprès des contribuables. Un, au niveau des régies financières, des GERAD, des GI, au SIDA, je crois que les vraies déclarations, l'honnêteté, la sincérité, et que tout l'argent des contribuables puisse aller directement dans la caisse de l'État, ça pourra amener à quelque chose. Deuxième niveau, au niveau des agents de ces régies, il faut qu'il y ait l'émulation de ces agents. Et il y a un moment donné où les bonus qui étaient octroyés à certains agents de ces régies financières, ils ne venaient plus. À un moment donné, on a remarqué qu'ils étaient un peu démotivés. En quelque sorte, c'est comme si ils étaient des cordonniers mal chaussés. Au niveau des contribuables, il faut éviter les arrangements avec les agents de ces régies financières, et parfois avec des carnets et des imprimés de valeurs parallèles. Donc, à tous les trois niveaux, il faut qu'il y ait la tolérance zéro pour la fraude. Et je crois que c'est pour rejoindre, du moins, le point de vue de précédent intervenant.
Merci beaucoup, Gondele, pour vos propositions en vue, bien sûr, du doublement des recettes. Ernest de Matadi, on vous écoute.
Alors, merci bien. Pour le taxe et impôt, nous pensons que le gouvernement doit faire des efforts pour que ces contribuables soient reconnus officiellement. Qui est contribuable et qui ne l'est pas. Donc, il faut un fichier de tous les travailleurs ou de tous les contribuables congolais. Et au niveau de Matadi, par exemple, nous savons que nous sommes dans une ville portière. On dit que le port de Matadi est le plus cher du monde. Et lorsque les contribuables, au niveau des impôts ou des taxes payées à ce niveau-là, sont mal orientés, c'est le petit peuple qui ne se retrouve pas parce que le commerçant va récupérer tout cet argent. Arrivé sur le terrain, le petit commerçant qui se débrouille de sa manière doit faire face à la contribution des DGI, des Gérard, et puis la REPER, par exemple, pour le cas de Matadi, la taxe provinciale, le régime de la province, la REPER. Si on ne fait pas attention, comme on l'a dit, le contribuable est asphyxié, il ne se retrouve pas. Alors, il a moins d'argent et c'est lui qui est les agents de régie qui sont motivés, qui doivent être, qui sont motivés peut-être plus que les contribuables. Tous deux ne se retrouvent pas parce que la motivation, parfois, elle revient, la rétribution revient avec difficulté et on commence à s'arranger, comme je viens de dire, celui qui vient précédé. On arrive à avoir des documents parallèles. Donc, nous pensons qu'il faut, et si les contribuables se retrouvent, une contribution sincère, on sait qu'il sait que je contribue pour le bien de notre pays, il sait qu'il y a des retombées qui reviennent parfois pour l'arrangement des routes, des ponts, c'est pour moi, des marchés et autres choses pour l'éducation des enfants, je crois qu'il y aura une conscience de contribution. Au cas contraire, il y a des malaises qui vont habiter les contribuables et commencent à faire le contraire. Donc je pense qu'il faut harmoniser les choses et ne pas organiser les choses dans le sens que le gouvernement central, le gouvernement provincial, et que ces taxes, nous en Matadi, on paye à les entreprises, à l'élection des grandes entreprises qui paient des taxes à partir de Kinshasa. Il faut qu'il y ait de l'harmonisation pour que ces éléments ne soient pas profitables, soit au gouvernement seulement ou aux contribuables, par les mensonges qui vont s'installer dans les dépenses.
Merci beaucoup, Ernest, pour votre intervention à partir de Matadi.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Vous suivez Radio Capi dans son émission Parole aux auditeurs et pour débuter la semaine, votre émission 100% interactive traite d'un sujet économique. Le mercredi dernier, le ministre des Finances a signé avec les régies financières des pactes de doublement des recettes. Ainsi, les régies financières telles que la DGRAD, DGI et OFIDA ont pris l'engagement de produire le double des assignations qui sont les leurs pour l'exercice budgétaire 2010. Pour ce faire, le ministre Matata Ponyo compte sur la réforme du système financier congolais, l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude et le détournement. Probablement que ce sujet vous intéresse parce que vous êtes auditeur et aussi contribuable. La question pour lancer l'émission, quelles sont les retombées du paiement des taxes, redevances et impôts sur le vécu des populations congolaises? Nous avons invité dans ce studio M. Ladjos Bidjo Nkebi, il est député national économiste et membre de la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. Si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081 99 77 800, le 081 99 77 800, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Monsieur le député, vous avez suivi nos auditeurs, une réaction?
Écoutez, tout à fait positif. Je comprends qu'il faut nécessairement augmenter les recettes.
Mmh.
Mais est-ce qu'on peut augmenter les recettes sans doubler les taxes et sans doubler les impôts?
Mmh.
J'ai dit d'emblée que c'est faisable. Mais quelles sont les pistes? Quelques-unes, hein? Ben, elles ne sont pas exhaustives, mais quelques-unes. Donc, il faut nécessairement arriver à réduire la fraude fiscale et la fraude
comme
douanière.
Comme l'a dit
oui. Deuxièmement, il faut lutter contre la corruption. Parce que la corruption est une gangrène pour l'Afrique, c'est une gangrène pour notre pays et pour tout ce qui concerne les recettes fiscales ou parafiscales.
Mmh.
Il faut introduire des réformes courageuses. Des réformes courageuses au niveau de l'OFIDA, au niveau de la DGI, au niveau de la DGRAD. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement de la République.
Mmh.
Il faut, de la part des agents des régies financières, éviter de façon permanente le chantage fait aux contribuables. Parce que c'est très important. On va faire papa un chantage. Non, vous allez payer 500 000 francs congolais. Alors qu'en réellement, en réalité, l'agent sait très bien que le contribuable doit simplement payer peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs. On nous fait un chantage. Ce qui n'est pas tout à fait de nature à augmenter les recettes. Deuxièmement, le gouvernement de son côté, il doit payer le salaire des agents et fonctionnaires de l'État de façon permanente. Pour que ces agents soient motivés davantage à payer. Deuxièmement, toujours du côté du gouvernement, il doit rétrocéder comme prévu les 5% de rétrocession sur les réalisations des régies financières. Troisièmement, il faut disponibiliser les imprimés de valeur. Parce que la plupart des régies financières fonctionnent sans imprimés de valeur. Ou sinon, ce sont des imprimés de valeur qui sont là peut-être pour 2 mois, 3 mois, puis ils sont refusés.
Mais au regard de toutes ces propositions pour doubler les recettes, mais ce qui est aussi important, c'est de savoir comment est-ce que le contribuable va ressentir en fait ce qui cela. Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes député national, vous êtes autorité budgétaire, donc en fin de compte, au-delà de tout, c'est le Parlement qui a un dernier mot.
Non, je voulais d'abord terminer par tout ce que j'étais en train de dépiler. Il faut que le peuple sente en contrepartie, que son argent sert réellement à améliorer son vécu quotidien. Le vécu quotidien du peuple, de la population, c'est quoi? C'est la route, c'est son avenir qui est éclairé, c'est la sécurité dans le quartier, c'est l'hôpital où il y a des médicaments, c'est l'école où il y a des pupitres, où il y a des clés. C'est ça le vécu quotidien du citoyen. Maintenant, comme vous venez de dire que nous, en tant qu'autorité budgétaire, c'est vrai, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons une part de responsabilité. Mais notre part de responsabilité est bien définie au niveau de la Constitution. Ce n'est pas nous qui élaborons le budget.
Mais vous pouvez le changer, comme vous l'avez fait d'ailleurs. Le budget est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez trouvé des ressources, des recettes additionnelles. Vous avez alloué ces recettes additionnelles à certains secteurs. Donc, vous avez quelque chose.
On le change, on l'améliore. On l'améliore à travers notre commission économique et financière. Parce que la loi est claire, on ne peut pas créer des dépenses si on n'a pas créé des recettes. Donc les dépenses doivent correspondre aux recettes qui ont été créées. Donc notre responsabilité en tant qu'autorité budgétaire, c'est de vérifier. C'est de vérifier si le projet tel qu'il nous a été présenté par le gouvernement, s'il est réellement valable. Et c'est comme ça que, comme vous venez de le dire vous-même, nous avons pu retrouver des recettes additionnelles. D'ailleurs, comme j'ai dit, depuis l'exercice budgétaire 2007, 2008, 2009 et 2010.
Et c'est pour cela que vous allez en congé parlementaire, en vacances parlementaires, c'est pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe à la base.
Mais écoutez, les vacances parlementaires, d'abord, c'est constitutionnel, non pas seulement pour aller voir ce qui se passe à la base, mais c'est pour aller rendre compte à la base de notre travail tel que nous l'avons effectué au niveau du Parlement. Le peuple, c'est notre patron, nous, les élus du peuple. Donc, nous devons lui rendre, nous devons lui faire le rapport. Et aussi, maintenant, nous attendons les doléances, les différents problèmes tels qu'ils se posent au niveau de la base.
Nous allons prendre une troisième série d'auditeurs. Il s'agit de Jean-Claude Lumbashi, Franck d'Autriche et aussi Hubert de Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, je suis Lumbashi.
Oui, on vous écoute Jean-Claude.
Oui, bonjour, je salue les auditeurs de Papine et vous-même, madame. Mais nous savons que nous sommes des intellectuels, nous savons que le pays vraiment était dans les problèmes, dans les difficultés depuis très de longues années, nous le savons. Mais ce que nous voyons, c'est que à partir des régies financières qu'on devrait avoir de l'argent, mais il y a des organisations à partir de Kinshasa où les gens, quand ils viennent par exemple, il est parachuté par exemple à Lumbashi avec pratiquement rien, mais après 2 ans, 6 mois plus tôt au moins, il a un parc de véhicules, il a une dizaine de femmes, il a des amis avec qui il est venu, qui sont tout autour de lui, avec qui il travaille pour nourrir ceux qui sont à Kinshasa. Et alors tout ça ne permet pas que le travail, les régimes financiers soient finis.
Et vous pensez que ça doit nécessairement passer par là, l'assainissement des régimes financières?
Oui, moi je crois que pour arranger les choses, pour que le contribuable puisse avoir sa part, mais je vous dis la vérité que il faut d'abord que les choses soient les têtes de ceux-là qui sont appelés à générer des recettes, puissent être capables de penser pour les intérêts des autres. Parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts, il n'y a rien de fruit. Quand vous êtes à l'intérieur ici au Katanga par exemple, vous ne trouverez rien de palpable. Quand on est malade, par exemple, il y a des graves maladies. Ici, par exemple, on a l'habitude d'envoyer les gens en Afrique du Sud. Mais qui peut vous envoyer en Afrique du Sud pour vous faire opérer, il faut marcher 6 000, 10 000 dollars. Qui peut vous envoyer là-bas? Il faut tomber dans les mains, par exemple, gracieuses du gouverneur de la province. Nous qui n'avons pas ce projet d'aller voir le gouverneur, vous tombez dans ces mains gracieuses-là. Mais qu'est-ce qu'il faut? On meurt.
Merci.
Mais tandis que ceux-là qui les génèrent, qui sont, même celui qui vous parle des GIL de Kinshasa, là, il a combien de véhicules? Il a combien de biens? Et ceux qui lui donnent ça, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la mort.
Merci beaucoup, Jean-Claude, pour votre intervention. Nous prenons directement Franck. Bonjour, Franck.
Bonjour, Madame Marie-Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capé.
Oui, Franck, on vous écoute.
Oui, Madame Marie-Chantal, merci beaucoup. Nous sommes en train de suivre avec intérêt les démonstrations techniques de vos invités, de certains intervenants. C'est très bien, ça a toujours été la préoccupation des très bons Congolais, des Congolais convaincus qu'il faut que les histoires marchent convenablement. Nous savons tous que chaque État qui se respecte doit fonctionner avec un budget respectable et crédible. C'est bien de dire qu'il faut redoubler les recettes, c'est vraiment une préoccupation technique. Mais est-ce que ça vaut la peine de nous dire qu'il faut redoubler les recettes alors que la mentalité même avec laquelle on gérera ces recettes n'a pas encore changé? Moi, je crois que les problèmes qui se posent chez nous Congolais, c'est pas d'abord les problèmes financiers, c'est pas d'abord les problèmes de quoi, mais c'est d'abord un problème mental. Il faut d'abord arriver à comprendre que quand on a des responsabilités dans certaines régies financières, il faut travailler pour la promotion de cet État dont on est citoyen. Comme les compatriotes qui venaient d'intervenir de Lumbashi venaient de les signifier. Donc, toutes ces régies financières-là, si on les suit de près, fonctionnent seulement pour un certain une certaine catégorie de citoyens.
Donc
ceux qui sont postés là-bas, ils ont le droit de prendre ce dont ils ont besoin au détriment de la République. Et maintenant qu'on nous dit qu'il faut doubler les recettes, quelles sont les garanties que le ministre lui-même va donner aux citoyens congolais, au peuple congolais, que ces gestionnaires de ces entreprises publiques ont changé de mentalité? Vont-ils continuer à redoubler toutes ces recettes avec l'ancienne mentalité, ou ils ont encore une autre mentalité qu'on va essayer de mettre en place?
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Je ne pensais pas de dire on va doubler, on va tripler, mais posons-nous d'abord la question qui est simple. Sommes-nous déjà en mesure de changer la manière de raisonner et de gérer notre État?
Merci beaucoup, Franck. Vous mettez un accent sur le comportement de la personne même qui est en train de prendre ses recettes, notamment nos régies financières. Nous prenons le dernier intervenant. Il s'agit de Hubert de Bukavu. Bonjour, Hubert.
Oui, bonjour, madame Marie-Chantal.
Oui, vous êtes le dernier intervenant, donc vous n'avez pas suffisamment de temps. On vous écoute.
Oui, mon intervention, moi, juste pour féliciter et louer la financière du pacte, par le responsable d'institutions financières, c'est l'article de la recette publique. Mm-hmm. Moi, je crois que c'est une prise de conscience par ces derniers, et je crois que désormais, ils canaliseront tout ce qu'ils ont recherché dans les comptes du réseau public.
Mm-hmm.
Et pour les personnes, ils devront aussi sensibiliser les subacteurs et collaborateurs.
Mmh.
Parce que je pense que s'ils font cela, les retombées seront vraiment l'amélioration de l'amélioration des agents de l'État. Et par conséquent, le panier de ménagère congolaise.
Ça va s'améliorer. Oui, merci beaucoup, Hubert, pour votre intervention. On a l'impression qu'on a un problème de liaison, mais on a pu vous suivre en gros. Hein. Vous pensez que nécessairement il y a des choses qui doivent changer, et vous avez même salué le fait que le ministre ait pris la décision de pouvoir signer des pactes de doublement des recettes. Notre invité qui est au studio, nous sommes presque à la fin de l'émission, donc vous avez suivi encore nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Écoutez, d'abord, je constate que le peuple congolais est d'accord. Tu dois payer les impôts, tu dois payer ses taxes et redevances.
Mm-hmm.
Sauf que il exige en retour que son vécu quotidien puisse aussi changer.
Hein?
Il est anormal que pour les gens qui payent les impôts et leurs taxes, mais qui ne voient rien qui change dans leur entourage immédiat. Nous avons entendu les amis, les compatriotes de Koulouse, de Bukavu, de Lubumbashi et d'ailleurs de Matadi. Ça veut dire qu'il y a un grand problème au niveau, bien entendu, des institutions, des États, principalement du gouvernement. C'est la charge du gouvernement d'affecter toutes ces recettes vers les dépenses qui améliorent le vécu.
Mais c'est votre charge en tant que destination de contrôler le gouvernement.
C'est là où je voudrais, je dirais, parachuter. C'est-à-dire que, avec tout ce que les auditeurs ont dit en ce qui concerne le comportement des responsables de régie financière, ça c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je dirais, les élus du peuple. Parce que comme vous le savez, et nous ne cesserons jamais de le dire, parce que nous le disons, on nous le répète sur le terrain. C'est vrai, vous faites de la production législative, mais nous ne sentons pas votre deuxième rôle, celui de contrôler. Contrôler l'exécutif, contrôler les entreprises et services.
Selon vous, c'est dans combien de temps pour qu'on arrive à comprendre, qu'on puisse revoir les retombées? Parce qu'il faudrait aussi ne pas oublier que la RDC a passé une longue période de crise, on est passé par la guerre et ainsi de suite. Mais il faudrait, selon vous, combien de temps pour qu'enfin le Congolais puisse... C'est vrai qu'on ne finira jamais de dire que ce n'est pas suffisant, mais au moins qu'on puisse, au niveau de l'éducation, de la santé, au niveau de sa sécurité alimentaire... Il faut combien de temps?
Mais écoutez, moi je crois que déjà, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans du premier mandat de la Troisième République, le peuple devait déjà sentir. C'est par là que nous parlons d'augmenter les recettes pour que le budget de l'État puisse accroître. Un budget de 6 milliards, on ne peut pas être sûr de ça. Et encore que sur les 6 milliards, il y a presque la moitié qui nous vient de l'extérieur. Donc, il y a la bonne affectation.
La redistribution.
Oui, la redistribution. Donc, il faut bien affecter les recettes lorsqu'elles ont été réalisées. Il faut bien les affecter dans les dépenses.
Vous êtes analyste économiste. Il faut combien de temps pour que la RDC arrive à se redresser?
Écoutez, madame, si nous parlons du temps, on risque de frayer inutilement le peuple.
Mais c'est la réalité.
Mais non, mais la réalité veut dire quoi? Les États-Unis d'Amérique, pour ne parler que des États-Unis d'Amérique, à chaque année, ils ont un budget qui ne cesse d'accroître. Parce qu'il y a des choses qui ont déjà été construites qu'il faut détruire pour renouveler, pour moderniser. Donc, de façon permanente, il faut qu'on commence réellement. Peut-être qu'on a commencé, mais le peuple ne le sent pas suffisamment. Et moi aussi, avec lui, donc avec le peuple, on ne le sent pas. Je crois qu'à la fin de notre mandat, on doit faire le bilan. Mais, dans 5 ans déjà, le peuple aurait dû déjà sentir. Je crois que j'ai répondu à votre proposition, madame.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ladios Bidjounkebi, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Allô? 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 Mais, il ne répond pas?
Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain. Vous le savez déjà peut-être que ce lundi, le monde célèbre la Journée mondiale de l'eau. Alors que la RDC fait partie des 10 pays au monde les plus riches en eau, avec 35% d'eau douce sur le plan mondial et 90% de sa superficie sont drainées par les eaux. Selon les dernières statistiques, 97% de la population ont un accès difficile à l'eau. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Selon vous, quelles sont les pistes de solutions pour améliorer la desserte en eau potable? Réagissez dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs pour la réalisation de votre émission. Il s'agit de Pierrot Lamegi, de Titi Poutou, sous la supervision de Nicole Ndaka. Surtout, restez branchés sur Radio Kapi pour la suite de ces programmes.